L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 271e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, je suis avec Pierre, comme d'habitude. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et on va vous expliquer l'actualité des deux semaines écoulées. Et dans le monde du libre, il y a une grosse actualité qui a fait parler dans le monde des développeurs. C'est pour ça qu'une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas la dédicalisation qui marquera la fin de cette émission, mais on va commencer par cette séquence. Pierre, donc XZ et Lib. LZMA, donc des bibliothèques de compression, ont fait l'objet de failles de sécurité qui ont été volontairement introduites, Pierre.
Tout à fait. On va commencer par le jingle de l'émission.
Ah, monde de merde.
Qui est... Ce jingle est parfaitement mérité pour cette dédicalisation. Parce que, donc, on va parler de la faille de sécurité qui a eu lieu, mais je voudrais en parler d'une façon un peu différente de ce que j'ai beaucoup vu. Parce que cette faille a fait le tour d'énormément de sites techniques, donc tous ceux qui s'intéressent à la technique auront pu voir des explications bien meilleures que moi, ce que je pourrais faire à la radio. Voilà, j'ai pas de support visuel, je peux pas montrer de code source, etc. Mais de toute façon, c'est pas la partie qui, moi, m'intéresse le plus. Je voudrais parler de cette faille du point de vue de la première victime. Donc je voudrais vous parler un petit peu de l'histoire. Alors, je n'ai pas fait attention à sa nationalité, mais l'histoire de Lace Collin. Qui est Lace Collin? Donc c'est un développeur de logiciels libres qui travaille depuis 2009 sur le logiciel XZ et avant ça sous le nom de LZMA Utils. Donc c'est des formats de compression, c'est un sujet technique assez barbare. Il y a 5 personnes dans le monde qui s'y intéressent, il y a 2 personnes dans le monde qui y contribuent par format. C'est le sujet que personne n'aime et que personne ne veut toucher.
Mais qui est bien utile tout de même.
Eh bien, c'est le problème. C'est extrêmement utile. Parce que des formats de compression, il y en a peut-être une dizaine. Des formats modernes comme XZ et LZMA, il y en a 2-3. Il y en a d'autres qui ont été introduits depuis, hein, qui sont potentiellement meilleurs. Mais voilà, XZ est un format extrêmement utilisé. Lace Collin travaille seul là-dessus depuis 2009. Seul, sans rémunération. Donc c'est un travail, c'est le monde du logiciel libre et de l'open source, c'est l'auto-esclavagisme habituel. Donc, depuis...
Parce que l'esclave, il était quand même nourri et logé.
C'est vrai, ça là, c'est même pas le cas. Et donc, la défense de l'esclavagisme, c'est vrai, faut que je me prépare des fois, préviens quand même.
Et donc, c'est pire que l'esclavagisme.
C'est vrai.
Ne me méprends pas sur les propos.
C'est pire que de l'Uber, c'est dire. Et donc... Il travaille depuis tout ce temps tout seul sur le projet et avec ses difficultés personnelles. Il a toujours eu des petits problèmes de connectivité Internet, donc des fois il n'est pas disponible pour répondre, ce qui a été le cas récemment, ce qui l'a encore plus embarrassé. Il a des problèmes de santé, etc. Et donc là, il y a 3 ans à peu près, sur les listes de discussion de ces logiciels-là, il y a des gens qui ont commencé à dire « Ouais, là, ce patch-là, ce correctif, quand est-ce que tu l'intègres? Quand même, ça traîne, c'est pas bien, etc. Si t'as plus le temps, faudrait que quelqu'un d'autre maintienne le projet à ta place. »
Et que quelqu'un lève le doigt.
Exactement. À côté, un autre compte encore sur un autre patch, « Ouais, dis non, ça traîne, tout ça. » Et donc, il a répondu « Écoutez, oui, je suis désolé, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de connectivité à Internet, mais depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui m'envoie des patchs, qui discute avec moi en privé. Effectivement, je pense lui donner les droits pour qu'il puisse intégrer des modifications sur le projet, pour qu'il soit co-mainteneur du projet. » Donc, ça ressemble à une bonne nouvelle pour lui. Voilà, il va avoir quelqu'un pour l'aider, l'assister dans son travail. Et donc, cette personne, avec des guillemets, alors c'est un nom chinois, donc je ne sais pas comment le prononcer, Yatan, je suppose, quelque chose comme ça.
C'est pas moi qui t'apprendrai à prononcer le chinois, Pierre.
Désolé, désolé à nos auditeurs chinois s'il y en a un. 2, ça me surprendra encore plus. Et donc, depuis... 1 an et demi, ce Yatan a les accès pour intégrer directement des modifications dans le projet sans relecture par Lace Collin, parce que ben voilà, il a fait ses preuves, il a envoyé un ensemble de correctifs, d'améliorations, de contributions diverses et variées. Et il a amélioré le projet. Non, même pas, pardon, depuis 2 ans et demi, et il est devenu release manager, donc c'est-à-dire qu'il peut sortir des nouvelles versions du projet depuis 1 an et demi à peu près. Et il a sorti, voilà, une nouvelle version, etc. Et il a sorti la version, alors de mémoire 5.6, j'ai pas toutes mes notes là sous la main. Il a sorti une nouvelle version 5.6 et il a dit, il a poussé auprès de différentes distributions Linux pour que ce soit intégré parce que voilà, il y a des correctifs importants dedans. On va faire là maintenant, on va sauter maintenant aujourd'hui et ce qu'on a découvert sur cette histoire. Donc, c'est l'histoire d'un développeur du projet PostgreSQL, donc un développeur sur la base de données. Alors, on va reconnaître ses mérites, hein, c'est Andreas Freund.
Qui est un bon ami.
Je le connais pas personnellement, mais c'est un taré comme je les aime. C'est le mec est fou de performance, d'optimisation, etc. Et il s'est rendu compte que, tiens, lorsque je fais mes essais sur ma machine, là, ça se reproduit pas bien. Il y a un truc. Il y a des fluctuations dans mes résultats qui ne me conviennent pas. Il a creusé, il s'est rendu compte que un programme SSH sur sa machine se comportait pas bien. Se comportait pas bien, consommait plus de ressources que nécessaire. C'est bizarre. C'est étonnant. Et donc, il a creusé, parce que SSH, quand même, c'est le truc d'accès à distance pour des centaines de millions de serveurs dans le monde. Il a creusé et il s'est rendu compte que c'est très bizarre. Lorsqu'on essaye de débugger le programme, etc., il y a des erreurs qui apparaissent qui sont anormales. Il a continué à creuser. Et en fait, il a découvert qu'à travers différentes dépendances, voilà, c'est un détail technique, hein, mais il a découvert que SSH sur Debian, Red Hat et quelques autres distributions Linux, SSH utilise XZ très indirectement, et que XZ découvre. En fait, le code de XZ se rend compte qu'il est rattaché à SSH et décide de pirater le comportement de SSH pour introduire une faille de sécurité. La faille a été découverte par pure chance. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas quelqu'un qui a fait un audit de sécurité qui l'a découvert. On est sur de la pure chance. C'est le 29 mars. La date est aussi importante pour vous montrer à quel point on a eu de la chance. La découverte, donc, c'est...
Donc les commits dataient de quand
Les modifications, alors j'ai pas les dates exactes, mais en fait ça s'est étalé dans le temps. Le mec a été extrême, enfin le mec, j'en parlerai après, mais ça a été étalé dans le temps. C'est un travail hyper pointu qui a été fait pour introduire cette faille. Je vais pas vous donner tous les détails techniques, mais le travail a été fait d'une manière hyper camouflée, très très soigneuse. Notamment, il a pas introduit le code de la faille dans le programme directement. Ça, c'est visible. Tu le vois, tu fais, tiens, il y a eu un changement dans le code. Oula, mais ça n'a rien à voir là-dedans. La faille a été introduite dans des fichiers de test du programme. C'est des fichiers qui sont là pour vérifier que XZ se comporte bien. Les fichiers sont là, tout va bien. Sauf que si on creuse, ces fichiers-là contenaient le code de la porte dérobée. Et là où le mec a été encore plus intelligent dans son attaque, c'est que lorsqu'on regardait le code source du projet, donc avec les outils de développeurs, on ne voyait pas le mécanisme qui activait la faille parce que ce mécanisme n'était disponible que dans le code qui était mis à disposition des distributions. Donc c'était hyper camouflé et ça avait toutes ses chances de réussir s'il n'y avait pas eu une personne pour s'en rendre compte par pure chance, encore une fois. Et on est passé réellement à deux doigts de la catastrophe. Si la faille avait été découverte au début du mois de mai, on était déjà sur un niveau de catastrophe un cran supérieur. Parce que là, la faille était découverte vraiment alors que ça allait arriver en production. Puisque là, nous sommes en avril 2024. L'importance de cette période, c'est que y a beaucoup de distributions qui sortent des versions majeures en cette période de l'année, notamment Ubuntu, qui est utilisé sur quand même un nombre extrêmement important d'ordinateurs de bureau, portables, de serveurs, évidemment.
Donc là, ça n'est arrivé, ce paquet n'est arrivé que sur des versions bêta de distribution.
C'est ça. Grand public. C'est la grande chance qu'on a eue, c'est arrivé que sur des versions de bêta ou de test.
C'est arrivé sur Debian typiquement instable ou sur testing ?
Testing.
Testing, quand même.
Ah, quand même. C'est arrivé relativement loin, mais c'est coup de chance, c'est pas arrivé dans une Debian stable. Si c'est arrivé sur des Debian stables ou sur des serveurs Ubuntu en stable, etc. Là, je pense qu'on pouvait contempler l'effondrement de l'économie numérique, potentiellement, puisque une faille aussi grave, derrière, lorsqu'on exploite la faille, il n'y a aucune trace d'exploitation, et ça permet de faire tout ce qu'on veut sur le serveur en administrateur. Donc potentiellement, quelqu'un pouvait se mettre à faire un ransomware géant sur des centaines de millions de serveurs. Ou corrompre et prendre le contrôle de centaines de millions de serveurs, voler des quantités invraisemblables de données, etc. On était sur de la pire catastrophe connue, en tout cas de tout ce que j'ai trouvé sur le sujet, la pire catastrophe en fait de contamination de la chaîne de production. Puisqu'au final, la personne, vu le type d'attaque, on n'est pas sûr. Ça me surprendrait que ce soit une personne. J'aimerais bien que les responsables soient trouvés.
On va faire de la xénophobie, mais ça sent l'acteur étatique.
Oui, exactement.
Alors, c'est peut-être... Après, on est dans les suppositions. Hein. Est-ce que c'est un peu gros? Donc, une personne chinoise, c'est un peu gros aussi.
Non. Alors, je présuppose pas de nationalité. Ça m'étonnerait que ce soit américain. Parce que les Américains, ils ont largement d'autres moyens de le faire. Voilà, ils ont plus simple. Ils vont pas se prendre la tête à faire ça. Ils interceptent les fabrications de matériel directement. Ça marche bien. Mais on est vraiment passé à deux doigts d'une catastrophe. Et pour revenir à la victime initiale, Lace Collin, au final, son travail s'est retrouvé dévoyé. Il s'est retrouvé complice, sans le vouloir, bien sûr, d'une tentative de piratage mondial. Et tout ça pour un travail pour lequel il n'a jamais été rémunéré. Et au final, ça s'est produit uniquement parce que on ne l'a jamais rémunéré pour son travail. S'il avait pu continuer à être mainteneur comme il l'entendait, peut-être que ça ne se serait pas produit. Si seulement toutes les entreprises qui profitent de son travail, et il y en a des tonnes, il y a des Google, Amazon.
Provoquer une telle faille de sécurité, c'est parce que son projet est largement utilisé.
Exactement.
Parce que c'est un projet libre, il peut être aisément réutilisable. Il a été, au final, peu aidé sur le projet. Et alors, c'est souvent un des arguments des adversaires du libre, de ses détracteurs. On peut facilement introduire des failles de sécurité. Bon, facilement, vu le travail qui était nécessaire là pour arriver à ce résultat, c'est pas vraiment le bon terme. Mais on voit que le libre permet aussi de détecter ces failles.
C'est ça. Je voudrais juste, pour finir, pour histoire de pas montrer qu'il y a que le libre qui a des problèmes comme ça, parce que ce genre d'attaque sur la chaîne de production du logiciel, finalement, ce logiciel qui arrivait à la fin, c'était pas le même.
Et ça, tu as fait une dégacilisation il y a quelques temps sur la sécurité des chaînes de production. Exactement. Et sur la chaîne de confiance.
Exactement. On a l'exemple, j'avais dû en parler, alors je crois que c'était le virus Tchernobyl dans les années 90. Vieux, hein.
C'est vieux, oui.
C'est très très vieux, où des éditeurs de logiciels s'étaient retrouvés à diffuser le virus sans le vouloir, parce que c'était à la gravure des CD, ou plutôt à la presse des CD, que les fichiers avaient été corrompus. Et donc le virus avait été introduit, non pas chez l'éditeur du logiciel, mais dans le centre de fabrication des CD. Pas de bol. Là, on est un petit peu sur le même genre d'histoire. Et pour contrebalancer par rapport au côté, les détracteurs du libre disent que c'est la preuve que le libre, ça marche pas, ceci, cela. Bon, déjà, ces logiciels-là peuvent être utilisés par des systèmes propriétaires. Que ce soit Microsoft ou Apple, ils ont tout à fait le droit d'utiliser XZ et LZMA. C'est leur droit et c'est probablement ce qu'ils font sur certains de leurs systèmes. Donc, il n'y a pas de garantie que eux non plus n'aient pas ces failles. Et pour contrebalancer, il y a un rapport qui est sorti là à la fin du mois de mars. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais qui est en gros un avis sur un piratage qu'il y a eu. Alors, on en a parlé un tout petit peu, je crois, l'année dernière, un piratage sur Exchange, Microsoft Exchange, la plateforme de courrier. Et grosso modo, le résumé, c'est Microsoft n'a pas de règles de sécurité en interne valables. Ils se sont fait voler des clés de sécurité qui auraient déjà dû être invalides parce qu'elles étaient censées être périmées. Ils ne les ont pas renouvelées. Ils se sont fait voler des clés. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas qui a fait quoi avec. Et la sécurité chez Microsoft ne marche pas. C'est une cascade d'échecs qui a abouti à la situation. Et c'est vrai que là, ils se sont fait un peu taper dessus par le gouvernement américain parce que le gouvernement chinois, notamment, a eu accès à des mails d'État. Ils n'aiment pas.
Un détail. Merci Pierre pour cette dégicalisation. L'émission n'est pas terminée puisqu'on reprend le fil de nos actualités. Et après un premier morceau de musique, nous allons écouter Color Out Host. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. C'était Call Out, host. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la première partie des actualités qui suit la dégicalisation. Pierre, et on va revenir comme d'habitude en commençant avec des actualités internet et vie privée. Google qui, pour s'en sortir sur des problématiques du le mode incognito, donc le mode de...
navigation privée.
Navigation privée, c'est ça, j'avais plus le mot. Hein. En tout cas, Firefox dit clairement quand vous ouvrez un onglet de navigation privée qu'on ça ne protège pas votre adresse IP. Ça... En tout cas, les limitations, hein, que vous n'êtes pas anonyme sur Internet, c'est important de le dire.
Oui, tout à fait.
Oui, mais ils le disent.
Ah oui, eux le disent.
Eux le disent, oui.
Ah non, 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 mais c'est pas ça le procès, c'est pire.
Oui, non, mais c'est une parenthèse. Et donc, pour pallier à ça, ils s'engagent donc à supprimer votre historique qu'ils avaient sur leur serveur, enfin vos historiques de navigation.
Google s'engage à faire ça. Mais là, ce que t'as zappé, et qui est plus grave, c'est que Google Chrome, donc le navigateur web de Google, capte un ensemble de données et les partage à des serveurs de Google. Quand tu navigues sur Internet, ton historique est envoyé en live à Google. Sur Chrome.
Oui, c'est pour ça que je l'ai pas.
Oui, voilà, moi non plus. Et là, la blague qu'il y avait, c'était que le mode incognito, le mode navigation privée de Chrome, envoyait l'historique à Google en continu. C'est-à-dire qu'on est...
Donc l'historique n'était pas sur votre ordinateur, mais sur ceux de Google.
Exactement. Et il se trouve que étant donné les usages de la navigation privée par certains, des personnes n'ont pas apprécié d'apprendre que leur historique de navigation était envoyée quand même à Google, étonnamment. Et donc, c'est une action collective qui a été lancée en 2020 sur le fait que ben voilà, le mode incognito de Chrome, faut peut-être pas déconner, c'était pas si incognito que ça. Et donc, pour essayer de régler la chose... Google notamment s'est engagé à supprimer les données collectées, effectivement. Donc, alors, on n'a pas les détails, mais on parle de milliards de points de données. Alors, qu'est-ce qu'un point de données ? On ne sait pas. Alors, faut c'est Google, hein, c'est leur baratin. Mais il était temps. Enfin, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a eu besoin de faire ça. Chez Google, ils se sont dit, c'est normal de collecter les données sur le mode incognito, sur le mode navigation privée. C'est génial. C'est fantastique. Ils osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît.
La semaine dernière, on vous avait parlé du fait que Apple et Meta avaient été mis en garde pour leur comportement de dénigrement envers le DMA. Ma phrase n'est pas très française et elle sera bien sûr, grâce au ministre de l'Intérieur, reconduite à la frontière. Donc, c'était donc un petit rappel à l'ordre de la Commission européenne. Et cette fois-ci, la Commission européenne a décidé de taper et lance une procédure d'infraction donc contre Google, donc Alphabet, Apple, Meta et Amazon.
Exactement.
Cette fois-ci, ça tape un peu plus dur.
Oui, parce que là, ils disent, ben, clairement, vous ne respectez pas la règle du DMA, donc c'est bon, on va sanctionner, on va taper. Et donc ça vise, alors, Google Play, Google Search, l'App Store d'Apple, l'écran de sélection du navigateur et l'alternative paiement ou publicité comportementale qu'il y a chez Meta et le site d'Amazon pour toute son œuvre. Ah, le site d'Amazon, c'est un régal en termes de violation de la loi. C'est pas besoin de revenir dessus, hein. Ils n'ont pas changé fondamentalement les choses. Donc, nouvelle loi, ben, s'ils n'ont pas corrigé, ben, ils continuent de ne pas respecter la loi. Et donc, sur le reste, ben, finalement, c'est ce qu'on a toujours dit. Le fait que ben, les Google Play Store et l'App Store d'Apple ne laissent pas assez la place à des alternatives pour l'installation d'applications et que ce soit Google ou Apple, ils ont trop contraint les choses et continuent d'engranger trop d'argent sur le dos de tout le monde. C'est bien beau d'avoir fait une vache à lait, mais il ne faut peut-être pas déconner au bout d'un moment. Sur l'écran de choix de navigateur d'iOS qui est trop complexe et qui n'aide pas qui n'incite pas finalement suffisamment les gens à choisir un navigateur correctement. Sur les avantages indus de Google au sein de son propre moteur de recherche. Et donc, comme je l'ai dit, le payer ou accepter accepter la pub, le flicage de chez Meta.
La revente de votre vie privée.
Oui, c'est ça. Et rappel sur le montant de l'infraction, hein, ça peut monter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial des entreprises en question, potentiellement 20% s'ils répètent l'infraction.
Ce qui est pas mal.
Ouais, on parle de petites entreprises, de la PME qui a 100 euros de chiffre d'affaires, quoi. C'est pas,
oui.
Hein, après, c'est quand même. Par ouais. Seconde. Non, plus. Plus.
Peux-tu ouais, nous sais... rappeler quel est le taux de rentabilité de ces entreprises?
Non, c'est
moi non plus.
Non, c'est un taux de rentabilité à deux chiffres.
Mais oui, on va même avec 10% du chiffre d'affaires, ils vont pas terminer en rouge.
Plaindre, ils sont pas à plaindre, non. Mais ça ferait du bien. Notre beau bru national, ils cherchaient 10 milliards. Ils sont là.
Hey. Bon, c'est mondiaux, hein. C'est pas uniquement leurs oui. Activités en France. On va parler d'intelligence artificielle et pour une fois. Parce que bon, on aime bien narrer les exploits des intelligences artificielles. Là, on va parler carrément d'une supercherie.
Non, je suis désolé, c'est de l'intelligence artificielle. Non, c'est trop bien.
Ouais, alors là, du coup, si tu dis que c'est une intelligence artificielle, on n'est pas loin de la xénophobie, Pierre.
C'est bien oui, que... oui, pardon.
Bon, hein.
Donc, oui, alors, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu en Europe. Nous, pauvres arriérés, n'avons pas eu le loisir de découvrir le Just Walk Out d'Amazon.
Ah, oui.
Alors, moi, j'en ai entendu parler pour la première fois dans un reportage sur Arte. Donc, c'est pas impossible que des gens en aient quand même entendu parler.
Sur le coup, de quoi il parle ? Mais en fait, oui, ça me rappelle, oui, il teste ça, effectivement.
Ouais, tu vois.
Mais tu sais, même ici, il y a une entreprise, le magasin où tu payes pas tes courses, c'est débité à la sortie. Hein. Il y a un groupe de grande distribution originaire du Nord qui a tenté aussi.
Ouais,
hein.
Et donc,
ils sont pas les seuls.
C'est ce qu'a fait Amazon. Et donc, ils vendaient ça avec des grandes vidéos, de grandes promotions en disant regardez, vous entrez dans le magasin. Et vous mettez des produits dans le chariot, vous sortez et pof, votre compte Amazon est automatiquement débité du montant des produits que vous avez mis dans votre chariot. C'est magique, vous avez plus à attendre à la caisse. Vous prenez, si vous reposez des trucs du chariot dans le rayon, et ben c'est retiré de la commande, etc. Et c'est tout magique, c'est trop bien. Vive l'intelligence artificielle. Et donc, Amazon a décidé d'arrêter ce système-là. Et à l'occasion, ben, on a appris que, en fait... Certes, il y avait un scan qui semblait automatique, mais en fait, il y avait un bon millier de personnes qui bossaient en Inde, qui regardaient toutes les vidéos en permanence et qui contrôlaient le système automatique et qui l'amélioraient parce que le système automatique, il ne savait pas tout faire. Ça ne veut pas dire, oh là, hop là, ils viennent de retirer un produit du caddie, il faut le retirer. Le système automatique, il ne pouvait pas tout tenir. Et donc, l'intelligence artificielle d'Amazon, c'était un bon millier d'Indiens qui étaient payés, pas beaucoup, hein, clairement pas le SMIC.
Et c'est peut-être le SMIC indien, t'en sais rien.
Oui, c'est ça. Et puis, ils étaient payés à vous regarder faire vos courses en continu, à dire, attends, là, oui, là, il vient reprendre un produit. Oui, c'est vrai, je l'ajoute. Ah, là, il a reposé. C'est vite.
En France, on appelle ça la police municipale.
Ah oui, c'est vrai. Et voilà, c'est juste un rappel. Les innovations de la Silicon Valley, des fois, c'est juste une façon de sous-traiter à des gens payés une misère. Un boulot de merde.
C'est surtout une autre variante des travailleurs du clic, en fait.
Oui, c'est ça. C'est le travailleur de « je vous regarde à la caméra ». Si vous avez l'occasion d'en voir encore un ouvert, faites un bisou à la caméra quand même pour penser aux personnes qui travaillent pour vous.
On retrouve les actualités après un second morceau de musique. Nous allons écouter donc Juan Carrizo, El Immortal, avec mon accent espagnol bien tout pourri que j'ai pas fait espagnol. Vous écoutez les Codes de nous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Immortales. Eran C'était Juan Carrizo à l'île mortale. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. On continue les actualités. Cette fois-ci, on revient en France avec la décision de la CNIL à propos de l'autorisation du Health Data Hub, qui était un projet de stockage sur les serveurs de Microsoft de données de santé. Qui est toujours d'ailleurs. Un projet de stockage de données de santé jusqu'à 1,5 million de Français, enfin 1,5 million de Français. Alors, à but de recherche, c'est pas a priori, dans un premier temps, pour faire quelque chose de c'est pas du recensement, c'est pour aider à la recherche médicale. Alors, des données qui sont pseudonymisées, c'est-à-dire qu'on enlève le numéro de sécu, on enlève les noms, prénoms, sauf qu'on sait que avec même des données anonymisées, au final, avec des détails sur votre vie, on peut pas retrouver, parce que un détail individuel peut sembler banal, mais si on fait du recoupement, on se rend compte qu'on peut facilement aboutir à l'identification d'une personne. Donc cette décision de la CNIL, prise un petit peu contrainte et forcée, elle a été attaquée par plusieurs entreprises devant le Conseil d'État, donc en référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence, et ils ont été déboutés. Débouté par le Conseil d'État qui n'a pas considéré que le caractère d'urgence était constitué.
L'urgence n'était pas très urgente. Voilà. C'était prévisible, c'est une habitude du Conseil d'État.
Notamment parce qu'ils ont argué du fait qu'il n'y avait pas de solution alternative qui était prête à être déployée immédiatement.
Oui, et l'avis de la CNIL, pour rappel, on en avait parlé, la CNIL avait rendu un avis en disant on ne peut pas s'y opposer parce que c'est légal d'après la loi. Effectivement, les textes d'accords transatlantiques, notamment le Cloud Act, c'est pas le Cloud Act justement, le Cloud Act est un problème, mais je ne sais plus, le Data Privacy Framework est en place et fait une adéquation entre les États-Unis et l'Europe pour la sécurité et le respect de la vie privée dans les données. Et donc, de ce fait, c'est pas gênant que ces données de santé, qui sont pourtant très sensibles, etc., soient stockées sur des trucs américains. Moi, je voudrais juste revenir sur un point là-dedans qui me perturbe beaucoup. C'est le libre-échange. Est-ce qu'on parle du fait que les États-Unis imposent à tout le monde le libre-échange, mais par contre, eux sont hyper protecteurs.
Mais ça, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau,
T'es pas le premier à le soulever, t'es pas le premier à faire la remarque.
Non, mais la même chose.
Ils exportent du libéralisme, mais ils gardent le protectionnisme chez eux.
C'est ça, mais
ce qui est protectionniste.
C'est la même chose. Et on ne met pas en place de protectionnisme, ni en France, ni en Europe, sur ce genre de sujet. On ne dit pas, les données doivent être hébergées par un prestataire européen sur des serveurs en Europe. Point. On ne va même pas parler sur des serveurs fabriqués en Europe. Là, ça serait commencé à demander beaucoup. Ou avec des logiciels européens, on ne va pas en parler non plus. On s'en fout, c'est pas grave. Parce que moi, c'est sur ce point-là que ça me choque encore plus. C'est les données vont partir à l'étranger juste parce que on n'a pas envie de les confier à une entreprise en Europe. Voilà, cadeau. Ça ne me va pas, mais tout est bon, ça va, écoutez. Il n'y a aucune importance. C'est bien connu, ça n'a pas de valeur les données. C'est pas comme ça que des entreprises comme Google et autres se sont construites.
Et c'est pas avec ça qu'on entraîne les algorithmes d'intelligence artificielle.
Non.
Monsieur Zuckerberg et son entreprise Facebook a espionné le trafic pourtant chiffré des utilisateurs de Snapchat.
Oui, monsieur. Enfin, comment ça Facebook a espionné des gens ? Non. Alors, l'histoire est un peu plus rigolote quand même, je trouve. Alors, en 2017, ça avait déjà été révélé, Facebook avait racheté en 2013 la start-up israélienne Onavo, qui fournit un service de VPN. Et il se trouve qu'en 2017, on avait déjà repéré que Facebook utilisait le VPN en question pour espionner les smartphones de ses concurrents. Enfin, les applications de ses concurrents sur les smartphones des gens qui utilisent...
Les smartphones, c'est man in the middle, in the service, as a service.
Tu viens de spoiler la suite de leur stratégie, Alexandre.
Oui, bon, ça, en même temps que le VPN, c'était une source d'attaque de l'homme du milieu, c'était pas non plus une surprise.
Et justement, non, c'est pas suffisant.
Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas encore assez. Parce que le défaut du VPN, petite explication technique, le VPN établit une connexion sécurisée entre votre appareil et un autre appareil. Entre les deux, le trafic on peut pas le lire, mais à la destination, on peut le lire, et au départ, on peut le lire.
Dans un tunnel.
C'est un tunnel. C'est un tunnel. Et donc, Facebook contrôlant la sortie du tunnel, ils avaient aucun problème à lire tout ce qui se passait. Le souci, c'est que des applications comme Snapchat sont chiffrées. Et donc, ben, si leurs communications sont chiffrées, elles entrent dans le tunnel chiffré, elles ressortent du tunnel chiffré. Et Facebook, vous voyez, ben, les données chiffrées, je ne peux pas faire grand-chose. Et là où c'était encore plus vicieux, c'était qu'ils sont allés jusqu'à proposer des kits à installer sur iOS et Android et qui interceptaient tout le trafic de ce domaine spécifique avant chiffrement. Voilà. Donc...
Je rappelle que nous n'avons pas du route sur nos téléphones portables Android. Enfin, nous.
Oui, bon, ni sur iOS. Hein, mais voilà, petit cadeau de leur part. Ils sont allés loin dans l'espionnage. C'est des méthodes de pirates. Enfin, c'est du piratage, ça s'appelle. C'est du vol. Moi, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Mais voilà, là, ils sont allés assez loin pour espionner Snapchat. Et en fait, l'intérêt pour eux, c'était surtout d'espionner leurs concurrents sur le marché, notamment de la publicité.
Alors après l'espionnage, la censure.
Oui.
Ouais, c'est réjouissant aujourd'hui.
C'est qui la censure?
Donc, merci Pierre. Donc une interview de la Federal Trade Commission, donc le département du commerce américain, a été interdite par Apple sur Apple TV.
Ouais. C'est un peu ça alors.
Peut-être qu'ils ont tenu des propos déplaisants à l'égard de la firme de Cupertino.
C'est ça.
Donc, rarement ce lieu commun journalistique. Oui, on devrait s'y mettre un peu plus.
Ouais, on devrait. Ça fait sérieux. Et donc oui. Alors c'est John Stewart, alors qui est un animateur d'émissions aux États-Unis. Il anime une émission sur Apple TV+. Et il voulait interviewer Lina Khan, donc la présidente de la FTC, dans son podcast. Et Apple lui a gentiment dit. Non, hein. C'est pas une bonne idée. S'il vous plaît, c'est pas une bonne idée.
Non, mais les télés publics sous contrôle de l'État, bah voilà, c'est censuré, c'est sous contrôle du gouvernement. Alors qu'avec des médias privés, hein,
voilà. Voilà, vive les médias privés, voyons qu'il n'y a pas de censure. Et donc, pour rappel, hein, la FTC fait partie aux États-Unis des organismes qui sont à l'origine du procès en cours. Enfin, qui a démarré pour abus de position dominante contre Apple.
Est-ce que du coup, ça peut rentrer dans le dossier?
Oui. Là, pour le coup, ouais, ça va sûrement rentrer
vois,
dans le dossier.
Le pied, tu vois le revolver, tu vois la balle.
Bon. C'est ça, oui. Là, ils ont bien visé.
Regarde pas mes pierres, ça sert à rien. Je ne suis pas armé dans le studio. Ni ailleurs, d'ailleurs.
Mais en plus, qu'est-ce qu'ils avaient à perdre pour un podcast sur... Je comprends pas.
Je pense que c'est un joli effet Streisand.
Ah oui, oui, non, mais ils ont fait fort. Ils ont fait très fort.
Le Royaume-Uni n'accepte pas l'extradition de Julian Assange sans garantie. Pourtant, ils sont plutôt coopératifs, les autorités judiciaires. Judiciaires britanniques.
Oui, mais donc, pour rappel, Julian Assange est toujours en attente dans une prison, je crois, anglaise, en attente de son éventuelle extradition, oui. Sur demande des États-Unis, où il encourt jusqu'à 175 ans de prison.
Et promis, ils le libéreront au bout de 5 ou 6 ans.
C'est ça,
promis,
oui. Juré. Et promis, il ne risque pas la peine de mort. Mais promis, ce sera un tribunal militaire, il ne faut pas déconner. Pour, donc, je rappelle, l'exposition différentes pratiques de barbouze des États-Unis.
Parce que la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'Europe, dont fait toujours partie le Royaume-Uni, hein, malgré sa sortie de l'Union européenne, interdit l'extradition vers des pays qui pratiquent la peine de mort. Et la peine de mort est toujours pratiquée au niveau fédéral aux États-Unis.
C'est ça. Donc, c'est pour ça que, non, c'est pas possible. Donc, ça fait plaisir. La suite au prochain épisode, malheureusement, les États-Unis vont pouvoir rassurer la haute cour de justice britannique. Une petite tape sur la tête en caressant dans le bon sens du poil pour lui dire « Mais si tout va bien se passer, on va être gentil avec lui ». Et donc, la suite, le 20 mai, éventuellement. À suivre.
Des actualités logicielles et même libres, mais pas que. Après un troisième morceau de musique, nous allons écouter Radio Nowhere, Queen of Evening. Vous écoutez les codes des GNU sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
light on this strange town. We waited while your mama said that she would give you away. We waited while your daddy cried when he lied and he said that he could let you go.
C'était Radio Nowhere, Queen of Evening. Vous écoutez les Codes News sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités et on va donc parler logiciel et matériel. Là, on est un peu à la frontière entre les deux.
Oui, monsieur, lui est tellement mignon.
Et tu l'aimes cette actualité. C'est pas du libre, mais c'est beau.
Bah,
on vous en parle. C'est la magie du matériel propriétaire. Donc, on va parler du format HDMI, donc, qui est un format. Donc, Pierre, tu en avais parlé il y a quelques.
Oui.
Le monde, c'était pas l'émission précédente.
Je pense que c'est la précédente. Dis tout le mal que
sur l'interdiction des implémentations libres donc, du HDMI dans les nouvelles versions. Donc, le HDMI qui intègre aussi les DRM. Et il y a un brevet pour faire encore mieux que ça, Pierre. Tu meurs d'envie d'en parler.
Exactement. Alors, c'est une petite entreprise américaine qui n'est pas très connue en France. C'est une entreprise qui fabrique des Smart TV. Donc, Roku, je ne sais pas comment ça se prononce.
Et qui a fait un beaucoup.
Exactement. Bravo pour ce jeu de mots de qualité. Et donc, ils ont déposer un brevet pour une nouvelle technologie qu'ils ont conçue sur le HDMI. Quel est le business model d'une Smart TV ? Commençons par ça. On vous vend un écran très grand à très pas cher. Comment c'est rentable ? Avec la pub ! C'est magique, hein, parce que tu es connecté à Internet, tu peux vendre du temps de cerveau disponible.
Oui, on peut aussi acheter une Smart TV à prix normal et pas être emmerdé.
Mais t'es pas toi, t'as pas l'esprit consommation de masse, Alexandre. Tu peux pas vivre dans le monde moderne. Arrête un moment.
Désolé.
Sors de ta caverne.
C'est le mec qui est pas Android qui me dit ça. Pardon, excusez-moi. C'était gratuit.
C'était gratuit. Et donc, ils ont un problème, c'est que quand tu branches ta Smart TV, mais que tu l'utilises pas pour les fonctions smart. Tu mets ta Smart TV et tu branches une console de jeu, un lecteur de
Blu-ray. Tu escroques le fabricant.
Mais tout à fait, c'est indécent, voilà.
Oui, mais non, mais ça me rappelle un vieil épisode des Simpsons en disant Homer Simpson qui dit non, on reste pendant la pub, on s'en va pas, sinon c'est comme si on escroquait la télé.
Exactement. Eh bien, ils ont dû voir cet épisode et ils s'en sont inspirés. Parce que donc. Effectivement, tu branches un lecteur de DVD, un lecteur de Blu-ray, une console de jeu sur ton port HDMI et tu visionnes en HDMI. Mais ils sont vachement emmerdés. Comment ils font pour faire passer leur pub ? Et bien, ils ont déposé un brevet. Ils ont trouvé... Enfin, leur brevet, c'est très simple. Ils détectent que tu as mis en pause ton contenu, tu as mis en pause ton jeu, tu as mis en pause ton film, etc. Et ils affichent de la pub à ce moment-là. C'est pas une blague. C'est pas une blague, ils ont vraiment un brevet sur ça. Et donc,
ils ont le brevet, ils ont pas.
Ils l'ont pas encore mis en vente. Sans l'implémenter. On peut avoir le brevet sans l'implémenter, mais je trouve ça magnifique, ne serait-ce que de penser à ça. Et donc, quoi que tu regardes ça, même, enfin, quel que soit le machin que tu as branché en HDMI sur ta Smart TV, voilà, ça va détecter que tu as mis en pause et on va te passer de la pub. Tu es en train de regarder je sais pas quoi sur une plateforme qui a déjà des pubs. Ou une plateforme où tu as payé.
Est-ce que c'est déjà le cas ? C'est-à-dire quand vous utilisez l'application de. Comment on appelle ça ? De télé de rattrapage. Enfin, j'ai plus le terme.
Oui,
écoutez, voilà, l'application.
De VOD.
De VOD, mais dire gratuit d'une chaîne de télé. Même si c'est une chaîne de télé publique, c'est pas rare que vous mettez en pause la pub. Déjà, vous avez de la pub avant et vous avez même des fois de la pub pendant.
Oui, et
bien. Là,
ils peuvent t'en réinjecter.
Sauf Arte, évidemment.
Là, ils peuvent s'amuser, du coup, à dire « Non, il a mis en pause. Hop là, on va injecter notre pub à nous. » Je trouve, c'est magnifique. Injecter de la pub dans le contenu des autres. Et
un petit côté parasitage, quand même.
Non, mais c'est grandiose. En même temps, ça t'apprendra à acheter un truc et pas utiliser leur plateforme intégrée. Faut pas déconner. Non, mais enfin, je suis sidéré. Moi, je suis en train de regarder un petit peu pour m'acheter un vidéoprojecteur et j'en vois plein qui sont bourrés de fonctionnalités de Smart TV. Donc, ça fait que c'est plus compliqué de choisir. Tu les retires tous et il y en a beaucoup moins qui restent. Est-ce que, justement, ils font du pognon avec de la pub ?
Alors, j'ai pas trop compris l'impact positif de l'IA dans la nouvelle. Tu nous l'expliqueras, mais AMD va libérer le code et la documentation d'une partie du firmware de ses GPU.
Tout à fait.
Et non pas de ses GPU, parce que ça, pour le coup, c'est pas très libre.
Donc, les cartes graphiques d'AMD, les cartes graphiques, aujourd'hui, il y a deux grands fabricants, surtout un. D'ailleurs, petite micro-brève sur le sujet. Le monde de l'IA génère un chiffre d'affaires, je ne sais plus de combien, et qui gagne plus que le chiffre d'affaires mondial de l'IA sur l'IA ?
C'est Nvidia.
Nvidia, en vendant les cartes qui servent à faire les calculs d'IA.
Alors j'ai vu un article sur ce sujet, un post de blog qui rappelait une vieille citation qui s'applique très bien. Lorsque a lieu la rue et vure l'or, comment on s'enrichir le plus facilement ? En vendant des pelles.
Exactement, je redis pioche, mais ouais, c'est l'idée. Et donc AMD a un problème, c'est qu'ils sont loin derrière. Ils sont très emmerdés parce que Nvidia a bien vendu le truc et effectivement a quelques avantages de son côté. Et AMD a décidé, pour gagner des points dans la bataille pour vendre ces cartes pour l'utilisation en calcul pour l'IA, ils ont décidé de libérer une partie du code source et de la documentation de leurs cartes pour permettre aux grands qui font du calcul d'IA massivement, donc qui achètent des dizaines de milliers de cartes graphiques ou même des centaines de milliers, pour leur permettre de comprendre et d'optimiser à fond. Alors, pour nous, utilisateurs lambda, techniquement, c'est pas important, mais ça veut dire qu'un bout supplémentaire des cartes graphiques sera libéré, a priori, et ça, pour le coup, merci l'IA, pour une fois, effectivement, on va le dire, merci à l'IA.
C'est
un effet de bord, mais plaisant, voilà, on va pas s'en plaindre.
Dans le livre, il n'y a pas que Linux, dans l'Unix, il n'y a pas que du libre, hein, hashtag Android, il y a aussi les BSD, et une de ses principales distributions, l'une des plus connues, c'est OpenBSD.
Oui.
L'installation tellement sécurisée par défaut que vous ne pouvez rien faire avec.
C'est, oui, je ne peux pas le dire comme ça, enfin, ça ne leur plaît pas quand on le dit comme ça. Donc non, OpenBSD qui se vante comme...
Il y a un peu de troll Linux basé, ça fait quand même longtemps, Pierre.
C'est ça. Plaît.
C'était quand même la base de l'émission.
C'est ça. Donc OpenBSD donc, qui a sorti une nouvelle version 7.5, donc voilà, l'occasion d'en parler. N'étant pas utilisateur, je ne vais pas savoir trop le vanter, mais il y a des points assez intéressants en sécurité dans ce qu'ils font, mais c'est assez... compliqué à évoquer pour cette émission, c'est vraiment, on est sur du très pointu, il faudrait que je fasse des supports vidéo pour expliquer certains des trucs, mais voilà, pour ceux qui ont vraiment un problème de paranoïa informatique...
La chaîne YouTube arrive bientôt, non, ah, c'est dommage, ouais. Presque une semaine près...
Ouais, c'est ça, une semaine près, ça passait en poisson d'avril, ouais. Mais donc, une nouvelle version d'OpenBSD, pour ceux qui suivent les systèmes BSD ou qui sont un maniaque de la sécurité informatique... Toujours intéressant à regarder, n'hésitez pas à jeter un œil. Le changelog est très technique, il n'y a pas grand chose qui en ressorte pour le grand public.
Un ensemble de fondations du logiciel libre travaillent ensemble pour mettre en place une procédure pour respecter le Customer Resilience Act.
Le Cyber Resilience Act. C'est la résilience du consommateur.
Il est très résilient, le consommateur, ouais, monsieur. Résilient, le consommateur européen.
Tu vois, c'est pour ça qu'on fait des déclinaisons à la fin. C'est comme ça, tu as le temps de te reposer à la fin. Une heure, c'est trop long pour toi.
Ouais,
la fin,
c'est ça, hein. Ouais. Vieilli, hein.
Ouais, alors, donc, le CRA, on en a parlé dans cette émission à plusieurs reprises, c'est le Cyber Resilience Act, donc la loi de résilience du monde numérique qui est passée au niveau européen. Et donc, ça introduit pas mal de changements assez importants pour rendre en fait, responsables les éditeurs de logiciels. Il y a des protections qui ont été introduites pour les logiciels libres là-dedans, ce qui font que, a priori, c'est acceptable pour le monde du libre. Mais il n'empêche qu'il y a des règles de sécurité qu'il faut commencer à respecter. Et un ensemble de fondations du monde du logiciel libre, donc la fondation Apache, Blender, OpenSSL, PHP, Python, Rust et Eclipse, donc cette fondation qui représente une partie assez importante du monde du logiciel libre pour l'entreprise, sont mises d'accord pour fixer des règles, pour dire il faut respecter toutes ces règles-là sur le développement du logiciel. Alors, l'ensemble des règles n'a pas été publié, mais voilà, c'est le sujet va être discuté par cet ensemble de fondations-là. C'est quand même des gros poids lourds. Et l'idée étant que tous les logiciels qui seront sous le contrôle ou diffusés par ces fondations devront respecter ces règles.
C'est après l'effort qu'éventuels, eux, passent, je dirais, à travers les mailles du filet.
Oui, mais voilà, il y aura des règles qui auront été posées et normalement, les logiciels pourront dire on respecte ces règles-là. Ce qui devrait aider aussi à respecter finalement les contraintes qui ont été fixées au niveau européen et améliorer finalement le but de cette loi, c'est améliorer la sécurité globale. Parce que là, on en a parlé juste avant avec le cas de XZ. Si la faille avait été exploitée dans un an, si la faille avait été découverte dans un an et exploitée pendant un an, on parle de dégâts de centaines de milliards de dollars sur l'économie mondiale.
Potentiellement. 2.0.
Ben non, mais ça aurait été une catastrophe. Il n'y a pas d'équivalence. Selon la façon dont ça aurait été exploité, ça aurait pu être un mini crack mondial. Enfin, c'est énorme. Mais ça n'est pas passé dans aucun sujet important dans les médias. Même
trop technique.
Enfin, ouais, mais même sur Le Monde, à la limite un petit article loin dans le journal, même pas. Il n'y avait pas besoin de faire trop technique pour en parler. Mais bon, au moins là, voilà. Pour l'avenir, les projets pourraient respecter un ensemble de règles pour peut-être se prémunir ce genre d'attaque.
On termine les actualités avec la rubrique nécrologie. Bon, rien de grave. Hein. C'est WordPad, le proto traitement de texte par défaut inclus dans Windows depuis Windows 3.1.
De mémoire, ouais, j'ai souvenir de l'avoir vu dans 3.1.
Au moins Windows 3.1, peut-être avant.
Recherche en vitesse, vas-y, explique.
Top, je suis. WordPad. C'est le concours, celui qui tourne.
Donc WordPad a été introduit, dans Windows 95.
J'aurais cru qu'il aurait été en 3.1. Tiens.
En fait, c'est son prédécesseur, Microsoft Write, qui avait été introduit dès Windows 1.0. Voilà, merci, j'ai confondu WordPad et Write parce qu'ils avaient le même logo à l'époque de mémoire. Et donc WordPad était le logiciel de traitement de texte intégré de base dans Windows que 3-4 personnes dans le monde utilisaient avant d'installer d'autres logiciels. Et donc Microsoft a décidé d'arrêter le support. Alors, ce qui me gêne dedans, c'est que ben, c'était la solution de base dans Windows qui intégrait déjà le support de OpenDocument. C'était pratique. Et l'idée derrière Microsoft, c'est quand même de pousser les gens sur du Office 365, donc aller payer un abonnement. Donc je vous rappelle que...
Vous pouvez installer LibreOffice.
Voilà, installer LibreOffice. Et rappel aussi, si vous voyez OpenOffice installé sur une machine, faites un geste de santé publique, installez LibreOffice à la place et désinstallez OpenOffice. Hein, ce n'est plus maintenu depuis longtemps, abandonnez OpenOffice.
C'est un geste de salubrité numérique.
Exactement. Et donc la fin de WordPad, si vous étiez parmi les rares personnes au monde à encore utiliser ce logiciel, LibreOffice, ça marche très bien. Voilà, faut pas déconner. Voilà.
C'était l'actualité des deux semaines écoulées. Un petit point sur l'agenda. Samedi le 13 de 10h à 13h30 à la médiathèque de Roubaix, donc rue Pierre Motte. Métro Roubaix Grand Place, donc une install party, Linux et logiciels libres. Il y aura aussi un repair café, hein. Il y aura deux événements concomitants, donc à Roubaix. On passe à Lille à une conférence. Tiens, pour une fois, on ne parle pas d'une install party, mais c'est une conférence OpenStreetMap et le vélo à la salle LIS, à la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, la MRES, donc, qui maintenant se trouve rue Jules de Vic. Donc, c'est dans le quartier de Fives, donc métro Fives. Donc, ça aura lieu de 18h à 20h. À Vimy, tiens, dans le Pas-de-Calais, à côté de Boulogne-sur-Mer, un petit déjeuner numérique qui aura lieu le samedi 20 avril de 10h à 17h. C'est le petit déjeuner, a priori, c'est plus pour un brunch, hein, vu l'horaire. Mais en tout cas, voilà, c'est bien, ça permet de faire des événements ailleurs que dans la métropole lilloise et dans les grandes villes. Et comme d'habitude, à Lille, au Café Citoyen, aura lieu la permanence de l'association Ch'tinux, mardi 30 avril, comme cher dernier mardi de chaque mois, de 19h30 à 20h30, à notre bon vieux, cher Café Citoyen, place du Vieux Marché, aux chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. C'était le 271e numéro de l'Écho des Gnous. Vous me retrouverez peut-être pour le 272e numéro de l'Écho des Gnous, le dimanche 21 avril. Rien de mal. Non, rien de grave, au contraire.
Un fork.
Éventuellement un fork. En tout cas, si vous me retrouvez le 21, vous ne me retrouverez pas le 5 mai. Donc c'est la dernière ou l'avant-dernière pour moi de la saison. En tout cas, on vous tiendra au courant. Merci à tous et merci à Pierre pour cette émission, comme d'habitude.
Merci Alexandre.
Et allez, on se quitte en musique avec l'introduction de Pierce Murphy Icebox. Ou alors, Pierre, tu veux mettre le générique?
Non, je vais mettre le générique.
Allez, on met le générique.
Peu de temps qui reste.
Tout de suite, rendez-vous avec Chupa Pimento. Et dans une semaine, ce sera la deuxième ligne, dimanche à 19h. Au revoir à tous, bonne fin de week-end.
Bye bye.
L'écho des Gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6. Le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des Gnous.